Mes très chers amis, nous poursuivons notre, on peut dire, extraordinaire histoire de Marietta que le Seigneur a permis qu'elle puisse voir le ciel, quelque chose de tellement merveilleux et aussi pour nous un enseignement. Le titre d'aujourd'hui de notre chère Marietta sera « Les enfants restaurés jusqu'à l'harmonie ». C'est l'étude numéro 25. Nous poursuivons donc l'histoire et je reçus de nouveau l'attouchement d'un rayon lumineux, nous dit Marietta, qui me permet de découvrir chaque enfant comme un instrument complexe et d'une délicatesse extrême, dont tous les éléments seraient désassemblés. Chaque partie distincte était dotée de mouvements, mais pas de détermination. Elle semblait séparément se maintenir dans une sorte d'activité spasmodique. Je me tournai alors vers mon guide et lui dis « Tout d'abord, j'ai vu dans les bras des anges gardiens le germe d'une vie d'enfant si fragile que je ne m'expliquais pas comment l'ange pourrait sauver cette petite lueur tremblante. » Et puis, j'ai vu une lumière qui venait d'en haut, envelopper l'esprit et le pénétrer. Alors l'enfant remua comme ayant reçu une nouvelle vie d'énergie. Après cela, je vis les tissus, les divers systèmes organiques de cet enfant, séparés les uns des autres, et voilà que tout était disloqué. Dis-moi, comment ces parties si différentes, compliquées et désunies, comment peuvent-elles se reformer en un tout harmonieux? Cette fois encore, je fus enveloppé de lumière. Son éclat pénétra les recoins les plus secrets de mon esprit, éveillant en lui les perceptions les plus exquises, et il me sembla qu'un nouvel être naissait en moi et s'élevait et dominait toute la scène. J'observai alors que les innombrables fonctions de l'esprit répondent chacune à l'attouchement d'une forte, ou plutôt d'une force invisible. Et cela jusqu'à atteindre le degré d'harmonie qui leur permet une parfaite adaptation. Puis, en s'embrassant, elles fusionnaient, perdant ainsi leur identité particulière, jusqu'à ce que je les aperçus comme formant un tout qui se mit à bouger comme un être distinct, complet et parfait qu'il était. Alors, pour l'enfant que j'avais vu en haut, entouré de la lumière des trois anges, j'ai vu apparaître chaque qu'un des éléments de son être dissocié et, de la même manière que cela s'était passé pour les précédents, ils s'approchèrent les uns des autres et ils se fondirent et cessèrent d'être distincts. Alors, inconsciemment, mon âme prononça ces mots « Louez le Seigneur pour ses œuvres puissantes, car mon esprit contempler un enfant dans toute la perfection d'une vie angélique. Oui, un enfant restauré. Je l'avais vu, petite flamme vacillante, puis enveloppée et pénétrée de la vie communiquée par les anges au-dessus de lui. J'avais scruté du regard chaque organe dans son mouvement tremblant sous l'intervention de l'esprit de vie. J'avais carrément désespéré de sa restauration. Et maintenant, ce qui avait été défait dans ses différentes parties, désunies, je le voyais instrument bien accordé dans l'être et la forme, comme l'esprit d'un ange. Et lorsque il leva les yeux vers le visage des anges, cet enfant sourit. Alors je songeais réellement ici à la réalisation de ce texte qui dit « Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Saint Jean chapitre 3 verset 7. À cause de ce qui venait de se passer devant moi, je ressentis la force de cette expression si belle de David. Nous sommes faits d'une façon qui inspire la crainte et l'émerveillement. Psaume 139, verset 14, selon la version anglaise, car parfois, dans la version française, le verset peut être 15 ou 13, etc. Donc, me tournant vers mon guide, je lui demandai encore, « Est-ce que tout cela est réel? Est-ce cela un esprit racheté? » Véritablement, dit mon guide, ce que tu as vu est en effet la réalité. C'est la révélation donnée à ton entendement du mouvement puissant de la grâce sur l'esprit qui avait été abîmé par le péché, lequel n'est autre que la violation de la loi, loi de la vie et loi de Dieu. La lumière qui descend des anges, Marietta, elle ne pourrait pas restaurer ni la musique apporter l'harmonie, ni les anges maternels redonner la vie à ce qui a été perdu. Leur tâche est de soutenir la forme extérieure alors que s'opérait le processus de séparation et que les divers éléments se trouvaient restaurés, rendus aptes à un heureux fonctionnement. Et tout cela par celui qui est le Rédempteur. Et c'est lui qui a la puissance de jouer sur chaque fibre de l'être, de purifier et d'insuffler dans l'âme l'essence de la sainteté, donnant une nouveauté de vie, un accent, une énergie, des inclinations et un amour nouveau. Ensuite, d'ordonner la réunion de ces éléments pour une vie parfaite sous la forme d'un enfant. Et tu vois à présent, tu vois un esprit dans sa rédemption parfaite accomplie. Il est maintenant prêt à reposer sur le lit doux et parfumé d'où tu as vu les autres s'élever vers une vie supérieure. Garde cela dans ton cœur comme un trésor. Marietta, mais tout en admirant toutes ces choses, sache qu'elles ne représentent qu'un aspect, simplement un aspect de toute la vie dans cette nurserie enfantine que tu as vue. mais voici que tout à coup change la scène et une autre se déroule maintenant. Écoute, écoute la mélodie des anges qui se déploie sur la sainte atmosphère de la cité. Ils chantent des louanges à Dieu et à l'agneau pour une telle rédemption, car très grand est le nombre de ces esprits restaurés et amenés à l'harmonie d'être parfaits. Et voilà pourquoi, Marietta, des louanges s'élèvent vers le Père Céleste chaque fois qu'une scène se termine, introduisant l'esprit nouveau-né dans l'harmonie et dans la participation à la vie du ciel. Ô combien mon esprit se laissait imprégner de la flamme céleste à mesure qu'elle s'élevait volume après volume en louange ascendante et en adoration, en gloire inexprimable et divine. Comme le dit l'auteur de l'Apocalypse, c'était semblable à la voix de grandes eaux. Apocalypse chapitre 1, verset 15. La cité tout entière paraissait n'être plus qu'une immense expression d'adoration. Oh, est-ce vraiment cela le ciel ? Demandai-je. Heureux celui qui est jugé digne d'entrer dans la cité de Dieu, si ce n'est là que le paradis des tout-petits, si la restauration à l'harmonie du ciel inspire un tel chant à cette classe d'esprits d'enfants, si grand qu'en soit le nombre, combien plus vaste et impossible à imaginer sera-t-elle alors l'expression de sa gratitude quand la rédemption achevée, la fiancée, oui, l'épouse de l'agneau, posera ses doigts sur la harpe d'or à la fin du repas des noces, et en ce grand jour où Dieu rassemblera ses joyaux. Apocalypse 19, verset 7. Comme je reposais dans les bras de mon céleste gardien, je vis son visage empreint d'une profonde émotion. Ses yeux étaient irrésistiblement fixés vers le haut, ses lèvres saintes remuées comme en prière. Au début, il parut sur ses traits une telle expression de tristesse que je crus qu'il allait pleurer. Mais les larmes n'ont pas été qu'une pâle manifestation des sentiments qui, je le voyais bien, l'étreignaient de plus en plus fort. Je pensais silencieusement, les anges pourraient-ils être attristés? La douleur a-t-elle accès dans la sainte cité? La musique avait cessé, son écho repercutait se perdait dans le lointain. Le silence régnait dans cet immense lieu et je restais appuyé sur le sein de mon protecteur béni, observant anxieusement ce qui se passait. Alors la lumière, venant d'en haut, brillait sur son front d'un éclat grandissant et ses yeux demeurait immobile et, pour employer des mots terrestres, sa poitrine se gonfla d'un soupir et ses lèvres cessèrent de remuer et son visage rayonnant prit l'expression du plus extrême respect. Ses regards avaient une expression si intense qu'il me sembla m'évanouir en échappant à ses bras. Mon trouble était tel que je ne remarquais pas la cause de son émotion jusqu'à ce que doucement, sans détourner les yeux, il plaça sur ma tête sa main blanche et pure comme la neige. Ensuite, la retirant, il la leva vers le haut, la pointant dans la direction que fixait son regard. Alors, stupéfaite, je contemplais l'objet de sa silencieuse révérence et de l'admiration émerveillée qui avait envahi les habitants de la cité. Là, oh, que le monde entier put le savoir. Là se trouvait suspendu à la croix, et autant que je pus le découvrir ensanglanté et mourant, mon Seigneur et mon Rédempteur. Oh, quelle vision! Nul cœur humain ne peut connaître l'effet qu'elle produit sur les esprits qui servent dans le paradis des enfants. La couronne d'épines, les clous, le corps lacéré, le sang qui coule, le regard de compassion, tout cela ensemble manifesté avec un réalisme tel que on peut dire s'imprègne carrément dans l'âme qui le contemple. La dimension de la plus intense et de la plus déchirante souffrance. Autour de la croix étaient réunis de toutes les parties de la cité les anges gardiens avec les esprits d'enfants. Tous, à mesure qu'ils se réunissaient en groupes circulaires, manifestaient une profonde humilité et un saint respect. Dès qu'ils eurent pris cette attitude uniforme, ils entendirent les esprits dont ils avaient la charge, les âmes enfantines, en direction de la croix et du sacrifice. À ce moment-là, un ange descendit, enveloppé d'un vêtement éclatant, et passa autour de la croix, tenant à la main sa couronne étincelante. Puis il s'inclina et adora d'une adoration silencieuse, comme le faisaient tous ceux qui se trouvaient réunis là. Après cela, s'adressant aux anges gardiens, il dit « Adorez-le, lui qui a racheté une race perdue. Oui, que tout le ciel l'adore. » Alors, il leva sa main droite et je vis qu'il tenait un petit livre. De la même manière, tous les anges levèrent la main droite et tous tenaient également un livre de même taille. Et c'est alors qu'apparut, comme venant d'un dôme invisible, une chorale d'êtres angéliques. Des palmes à la main, ils chantaient d'une seule voix des louanges à Dieu et à l'agneau. Je n'ai pas pu comprendre, en somme, le début, mais ils conclurent par ces mots. Laissez venir à moi les enfants, car le royaume est pour ceux qui le ressemblent, de la bouche des bébés et de ceux qui sont à la mamelle. Tu reçois une louange parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, les anges gardiens s'approchèrent plus près de la croix, présentant leur précieux fardeau en même temps qu'il leur était dit des choses échappant complètement à ma compréhension. Et après ces paroles, chaque enfant fut touché par un flot de lumière. Ils inclinèrent la tête en souriant, tandis que leurs petites mains tenaient serrées une image de la croix donnée par leur ange gardien. Ils reprirent place au creux de leurs bras protecteurs, et de nouveau le chœur entonna d'une voix forte un cantique Ô quel cantique qui reprit en écho par ceux qui étaient tout autour, remplit donc la cité tout entière d'une sainte mélodie. La croix et le sacrifice s'effacèrent, et les anges retournèrent d'où ils étaient venus, et la cité reprit son apparence première. Durant tout ce temps, mon guide n'avait pas bougé ni prononcé une seule parole, mais il semblait s'être intégré dans l'esprit qui régnait, réalisant qu'une scène d'un intérêt captivant venait de nous être montrée. Finalement, je posai ma question. N'y a-t-il pas de ciel sans la croix et le sacrifice? Chaque scène tourne autour de sa manifestation. Chaque esprit la vénère avec une sainte ardeur. Oui, chaque hymne de louange murmure le nom du sacrifice. Et sa réponse vint très passionnée. Marietta, la croix est toujours devant les yeux des esprits rachetés. Dans chaque cercle, elle est visible. Chaque fleur, chaque production artistique, comme par une main invisible, emporte l'empreinte. Toute instruction est basée sur ce symbole béni d'amour rédempteur. Aussi, c'est la tâche des anges gardiens d'instruire les esprits dont ils ont la charge au sujet de la grande vérité de la rédemption par Jésus-Christ qui a souffert sur la croix. Et dans ce but, chaque groupe d'esprits d'enfants, passant des soins de leur premier ange protecteur aux mains des autres, est rassemblé de la même manière. Et par ce moyen, la croix et le sacrifice se trouvent donc comme imprimés au fond de leur conscience. De l'intérieur aussi, sa nature et sa ressemblance développent en eux une vie plus haute, des êtres plus élevés. Tous les esprits rachetés et sanctifiés sont amenés à revêtir cette apparence. Aucune duplicité ne peut en aucune manière se trouver en eux. Ainsi, tous les anges peuvent-ils contempler la croix lorsque son éclat rayonne de l'âme qui a reçu son empreinte, et par cela même, les êtres ou esprits malins ne peuvent pas dissimuler leur vraie nature aux anges, ni aux esprits des hommes justes qui sont parvenus vraiment à la perfection. Hébreux 12, verset 23. Là où ne brille pas la croix, il n'y a pas de pur amour, et le cœur où elle n'est pas visible n'est pas en paix avec Dieu. Au ciel, Marietta, personne n'est trompé. Ces révélations, pourtant, ainsi que d'autres manifestations, ne constituent qu'une introduction au principe essentiel, lequel, en temps voulu, seront développés de façon plus parfaite à travers des manifestations plus spécifiques et plus vastes. J'entendis alors une voix venant d'en haut qui disait « Monte ici !» Et à ce moment, j'ai vu un espace circulaire comme l'intérieur d'une tour. Ses murs en spirale étaient formés en galeries ascendantes qui montaient jusqu'à une gloire plus grande encore. Le chemin tracé était d'une beauté incomparable. Porté sur une nuée de lumière, la femme, l'esprit qui avait embrassé la croix. Et moi, nous sommes élevés au-dessus de la cité, le long des galeries montantes de cette tour qui avait la forme de la gloire de l'arc-en-ciel. Supérieur à tout ce que j'avais ressenti jusque-là, un sentiment de calme, de sainte paix et de délices envahit mon cœur. Bientôt, sortant de la galerie d'arc-en-ciel, nous nous sommes trouvés sur un plan aérien. Nous reposons dans l'air transparent au-dessus du magnifique dôme qui couronne le temple central de l'instruction. De cette position, il m'était possible de contempler l'immense cité qui s'étendait de tous côtés sous mes yeux. J'étais situé de manière à embrasser d'un seul regard les lignes générales de son plan, à l'admirer dans son ensemble, en somme comme un tableau d'insurpassable beauté. En dessous de moi, il y avait le sublime temple de l'instruction en matériaux précieux dont je suis incapable de décrire l'architecture, reposant suspendu au-dessus du centre d'une pelouse circulaire. Cette pelouse, très étendue, semblait recouverte de la plus exquise et riche verdure. Des arbres majestueux s'élevaient en groupes régulièrement espacés, portant à profusion des fleurs en bouquets brillantes et parfumées. Sous leur ombrage, comme dans les endroits découverts, on voyait de minuscules lits de fleurs de toute variété, des arbustes et des vignes en bourgeons. Il y avait aussi des fontaines d'eau vive, les unes sortant juste de l'herbe verte, s'écoulaient dans des canaux de marbre ou ruisselaient sur des lits de sable doré, faisant entendre un murmure délicieux. Tandis que d'autres jaillissaient en plein volume à une hauteur majestueuse, puis retombaient en ruisseaux étincelants de formes variées pour être recueillis dans des bassins semblables à du diamant, à de l'argent fondu ou à de la perle très blanche. Cette pelouse était entourée d'un treillis élevé. À son côté oriental se trouvait une couverture sans porte, du centre de laquelle jaillissait un courant d'eau vive alimenté par les fontaines dans l'enclos. Ensuite, je dirigeai mon attention sur la cité qui entourait la pelouse et je découvris qu'elle apparaissait partagée en 12 grandes divisions par le fleuve d'eau vive coulant en spirale, et sur chacune de ses rives, il y avait une avenue large et régulière qui formait deux grandes boucles partant du centre vers la circonférence. Je remarquai aussi que 12 autres rues coupaient l'avenue en spirale, convergeant vers le terrain consacré autour du temple, et s'écartant en rayon jusqu'à 12 points régulièrement espacés sur la limite extérieure de l'ensemble. Ensuite, je pus distinguer les mouvements des habitants de la cité, comment rendre une idée exacte de ce qui se passait sous mes yeux. Je peux seulement le décrire comme un mouvement tout harmonieux. La multitude des anges semblait animée d'un amour qui inspirait et qui remplissait tout. Ils se mouvaient selon la sagesse d'un plan bien ordonné, avec le but d'amener chacun l'enfant qui lui était confié à la stature où il s'intégrerait pleinement à toute cette visible perfection. Aucun ange ne manifestait de mouvements séparés, personnels, détachés de l'universelle harmonie, mais tous paraissaient coopérer en communion avec une source supérieure. Et là, j'ai vu ni rivalité, ni émulation, ni des désirs de gloire personnelle. Tout était une chose inconnue au sein de ces aimables groupes d'enfants. Mais chaque groupe, les habitants de chaque nurserie ou palais étaient unis par une sainte affection à ceux de conditions plus élevées. Et chaque petit enfant, nourri d'amour céleste, aspirait à grandir en sainte sagesse pour devenir apte à servir comme un ange rayonnant de tendresse. Je constatais encore combien chacun était ravi d'apprendre de ceux qui étaient au-dessus de lui, d'exercer son être entier en harmonie à ses œuvres d'amour, où l'égoïsme est totalement inconnu. Il m'était donc révélé que chaque enfant, chaque groupe, progressait avec ordre de temple en temple, d'un palais à un autre et de cercle en cercle. Quand un groupe franchissait une étape, il venait occuper la place juste laissée vacante par un autre plus âgé, libérant ainsi une famille plus jeune d'habitation qui, on peut dire, qui laissait ainsi la place à d'autres. Ainsi, on peut dire, on pouvait contempler la cité dans toute sa gloire et dans toute sa magnificence. Et ma vision s'élargit, et par-delà le cercle des palais, j'ai pu apercevoir plus clairement et plus parfaitement ce que j'avais vu auparavant lorsque je me trouvais dans la cité, des multitudes d'anges se rassemblant, prêts à entrer. Les anges se rassemblaient là, au moment fixé, dans les temples extérieurs bordant le dôme. Et j'ai vu que chaque classe d'anges se groupait selon le degré d'instruction auquel les enfants qu'ils portaient était exactement adapté. Les anges approchaient comme sur les ailes du vent, tout autour, les enveloppant, une nuée éclatante me les faisait paraître comme étant vêtus du soleil même. Cette scène merveilleuse, glorieuse, dans son délicieux déroulement, se mit à changer quelque peu, puis mon guide s'adressa à moi en ces termes. « Marietta, considère l'ordre et la splendeur glorieuse du premier et du plus simple degré d'un paradis spirituel. Ces anges que tu as vus dans leur activité sont constamment engagés dans leurs tâches exquises. » Ici, comme tu l'as appris, arrivent les petits-enfants depuis le monde d'où nous sommes, puis, à partir de ce domaine béni, ils sont conduits dans d'autres écoles de niveau d'éducation plus élevé. Mais pour qu'il te soit permis d'aller plus loin, il faut d'abord que tu reçoives un solennel enseignement. Et mon guide me toucha de nouveau le front, et voici l'éclat et la gloire de la vision s'effacèrent. Immédiatement, je me sentis descendre pour me trouver dans une voûte souterraine basse et obscur. Les ténèbres en plis épais m'enveloppèrent et une sensation de frayeur surnaturelle pénétra mon âme, secouant tout mon être. À cet instant, un flash d'un bleu sulfureux troubla la voûte des ténèbres, et lorsque il s'éteignit, je fus entouré de spectres menaçants qui flottaient autour de moi, chacun d'eux enveloppé par le feu d'une passion non dissimulée. Le changement avait été si soudain et ses effets sur moi si terrifiants que l'horreur et le désespoir avaient seuls rempli mon cœur jusqu'au moment où ces lugubres esprits apparurent. Alors une terreur indescriptible s'empara de moi et je me retournai pour me réfugier dans les bras de mon guide. Mais hélas, hélas, il n'était plus là. Toute seule dans ce lieu effroyable, je n'ai aucun moyen d'exprimer la moindre idée de l'agonie que je connus alors. Mais ma conscience, comme guidée par un esprit cruel, fit écho d'une voix rauque et tremblante. Pendant ta vie, tu as rejeté et tu as méprisé les moyens répondant à tes besoins. Peux-tu donc espérer des lendemains heureux dans ce sombre théâtre de malheur? Sur quoi, ajoutant encore à ma détresse, mes doutes et mon scepticisme d'autrefois se dressèrent tels des êtres vivants et me dévisagèrent d'un regard perçant. Ils tonnaient autour de moi, me condamnant d'un ton railleur. Puis, tout à coup est venue mes méditations passées. Tout le passé est revenu. Il n'y eut pas une secrète pensée qui ne fût au nombre de cette foule qui se rassemblait, même certaines que je croyais avoir oubliées totalement, venaient se camper en rang serré autour de moi. Puis elles changèrent, chacune prit l'apparence d'une boule, on peut dire, roulant dans l'atmosphère mentale, dans l'atmosphère spirituelle et morale de mon être. D'abord séparées, elles se combinèrent finalement comme étant les composantes de ma propre personne. Le seul moyen de leur échapper, ça aurait été de fuir hors de ma propre vie. Les anéantir aurait signifié effacer mon existence même. Et c'est là que je réalisais la force de la déclaration du Sauveur. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Saint Matthieu 12, verset 36. Tandis que mon cerveau semblait tourner, tel un observateur extérieur autour de mes pensées au désespoir, et que dans l'amertume la plus totale, mon esprit soupirait vers une délivrance de cette obscurité infernale, aspirant à posséder à nouveau une forme corporelle, or un nouveau spectacle plus terrible que tout fut soudain devant mes yeux. C'était la représentation absolument parfaite de mon Rédempteur crucifié. Soudainement, toutes les opinions que j'avais eues ma vie durant, à son regard, passèrent en une vision continue. Chacune passait avec un corps distinct, une partie de la vision dotée d'images appropriées révélait mes pensées, oui, mes profondes pensées, secrètes même, le considérant comme un simple homme. C'est ce que j'avais cru, parfois, que Jésus-Christ était un simple homme. Une autre partie représentait mes pensées considérant son expiation réservée à un nombre limité d'élus. Alors là, sous des formes épouvantables, apparaissaient ces pensées où je me figurais condamné au châtiment éternel parce que prédestiné à la réprobation de toute éternité. Dans une autre fraction, avec leur forme correspondante, c'était mes idées sur le salut éternel, tous les doutes de l'humanité, sans qu'il soit nécessaire de réforme morale. Je pensais qu'on pouvait vivre sans foi vivante, ni personnelle dans le Sauveur, dans son œuvre d'expiation. Et puis encore, un autre fragment de la vision apparut, et cela en image significative de sa nature intérieure, ce fut la conception du salut par la moralité. Ces compartiments successifs s'unirent dans une sphère tournant autour de moi. Elle contenait 10 000 images confuses qui se combinaient et se séparaient à toute vitesse pour toutes à la fois inquiéter, surexciter et accabler mon esprit. Ainsi donc, ma conscience s'agitait en vision effrayante autour de ma pensée et chaque phase de doctrine concernant Christ, le ciel, l'enfer, la religion ou la vie éternelle, fussent des choses que j'avais entendu prêcher, acquise par ma recherche, recueillie dans des conversations ou conclue après réflexion personnelle, chacune était une parcelle de cette gigantesque fresque. Oh, quel horrible trouble de voir toutes ces opinions au sujet du Rédempteur, de s'associer et de combattre, tandis qu'elle m'encerclait d'un nuage à la fois confus et cohérent d'images, je découvris en chacune d'elles une vision déformée du Sauveur. Cependant, en aucune de leurs formes distinctes, pas plus que dans l'ensemble de la nuée aux facettes changeantes, je ne pus le discerner tel qu'il était. À cause de cela, rien ne pouvait être révélé de sa gloire divine et de son honneur, ainsi que de sa majesté, de sa perfection, dans leur puissance rédemptrice et exaltante, si bien que je ne pouvais absolument pas le voir comme étant le prince et le sauveur, ses véritables caractères dans lesquels il se présente au monde. Quel immense contraste quand du milieu de la nuée apparut cet être glorieux, enveloppé comme par l'éclat d'un soleil, incrusté dans la surface en rotation, du halo lumineux qui l'entourait, se déplaçant d'un mouvement calme mais rapide, je pus voir une représentation de la relation étroite entre le divin Rédempteur et l'univers de lumière, cet univers de lumière où demeurent les saints anges et aussi la terrible disparité entre ma propre nature et cette sphère de lumière et de vie, d'harmonie et d'amour. Ainsi, je le contemplais, celui que, dans ma folie, mon incrédulité, j'avais si souvent rejeté. Et tout de suite, j'ai souhaité de sortir de la prison mentale qui retenait mon esprit et me joindre avec tout ce qui vivait en moi à cette sphère de lumière pour demeurer dans sa beauté, dans sa paix et sa joie, seulement me voyant incapable d'entrer dans cette réalité à cause de la différence entre ses perfections et les éléments impurs de mon esprit déchu, je renonçais à l'espoir et de nouveau le doute en moi prit, hélas, le dessus. Soudain, il me semble voir monter comme un voile de nuit infernal qui m'envahit et m'enlaçait. Et mes doutes intérieurs parurent s'inscrire dans un nuage qui me sépara de la gloire d'en haut. Alors mon esprit de reniement me plongea au creux d'un gouffre de ténèbres encore plus profond. Je me sentis comme précipité d'une hauteur vertigineuse. Des ténèbres tangibles s'ouvrirent pour me recevoir. L'ombre mouvante d'un abîme plus désolé encore s'éleva comme des nuages en masse épaisse d'obscurité et de tempête. À mesure que je descendais, le poids des ténèbres s'appesantissait de plus en plus sur moi, m'oppressant de façon terrifiante. À la fin, une plaine qui semblait infinie apparut tout à coup à mes yeux. De plus près, elle paraissait couverte d'une sorte de végétation étincelante. Des choses paraissaient lumineuses, comme des arbres mouvants portant un feuillage scintillant. Des fleurs et des fruits de cristal et d'or étaient visibles dans toutes les directions. De multitudes d'esprits apparurent sous les ombrages des pèlerines lumineuses qui enveloppaient leur forme au mouvement rapide. Certains portaient sur leur tête des couronnes, d'autres des tiares et d'autres des parures dont j'ignorais le nom, mais ils paraissaient couverts de bijoux, de guirlandes, de pièces d'or, de vêtements tissés d'or et d'argent. D'autres encore portaient des casques imposants et d'autres de petites couronnes garnies de plumes scintillantes qui ondulaient. Une pâle, on peut dire une pâle phosphorescence, était vraiment émise par chaque objet et tout ensemble, tout l'ensemble paraissait comme une superbe mascarade. Car des milliers de gens, à l'air très occupés, étaient vêtus dans un style correspondant aux ornements de leur coiffure. Toutes les variétés imaginables de parures somptueuses s'exhibaient sur leur forme. Des rois, des reines, dans leurs pompeux costumes de couronnement, des groupes d'hommes et de femmes de la noblesse vêtus selon tout l'apparat de cour royale. Des multitudes immenses révélaient par leur habillement qu'elles appartenaient à des nations hautement cultivées. Tandis qu'ils passaient, je découvris des groupes similaires correspondant à des peuples moins civilisés accoutrés d'ornements barbares de toute espèce. Certains étaient vêtus comme on s'habille aujourd'hui, d'autres comme dans l'Antiquité. Mais chaque catégorie d'esprit manifestait uniformément, au milieu de la variété des modes, un étalage d'orgueil, de pompe, de lustre éblouissant au changement rapide. Alors une sphère fantomatique de mal apparut. Des sons divers, très mélangés, heurtèrent mes oreilles éclat de rire, sarcasme, allusion obscène et terrible malédiction, le tout mêlé de sollicitations impures, de calomnies, de compliments creux, de félicitations hypocrites dans un environnement brillant, éblouissant, cela secouait ma raison déjà douloureusement déroutée. En revanche, j'avais l'impression de marcher sur des scorpions ou de poser les pieds sur des charbons ardents. En mouvement autour de moi, le feuillage des arbres était brûlant, leurs fleurs, des éclairs, des flammes qui mordaient sans rémission. Toutes les choses avec lesquelles j'avais contact produisaient une sensation d'agonie. L'éclat phosphorescent qui enveloppait les divers éléments brûlants, l'œil qui les regardait, et les fruits brûlaient la main qui les cueillait, et les lèvres qui y goûtaient. Si on ramassait des fleurs, il s'en dégageait une odeur brûlante, fétide, si agressive qu'elle causait aux narines une souffrance atroce. Les parcelles enflammées de l'atmosphère brûlaient en tournoyant autour de moi. L'air et le souffle violent qui s'agitait étaient chargés de l'essence même de la désillusion et du désespoir. En me retournant, cherchant à découvrir une goutte d'eau, si petite soit-elle, pour étancher la soif intolérable qui me tenaillait, j'aperçus des fontaines et des petits ruisseaux coulant dans l'herbage vers des étangs calmes et immobiles. Et très vite, je compris qu'il n'était que un mirage de plus. Les gouttes jaillissant des fontaines étincelantes retombaient comme tombent des gouttes de plomb fondu, sur une substance qui se contracte. Les ruisseaux n'étaient que des rivières de métal en fusion, coulant d'une fournaise cette fois surchauffée. Et quant aux étangs tranquilles et profonds, ils étaient comme un argent blanchi et figé dans quelques creusets rougeoyants où chaque parcelle se consume dans une chaleur improbable. Vraiment, c'était terrible. Je contemplais ainsi, consterné, ces terribles visions quand s'approcha de moi l'esprit d'une personne. Sa silhouette, son visage, ses yeux et ses mains paraissaient briller d'un éclat métallique qui variait à chaque mouvement et à chaque pensée. L'esprit m'aborda et me dit « Marietta, nous revoilà réunis. Tu me vois ici comme un esprit sans corps dans le lieu où ceux qui ont rejeté intérieurement le Sauveur trouvant leur habitation aussitôt le temps de leur vie terrestre terminé. Des émotions étranges agitent ton cœur. C'est ainsi que moi, avec des sentiments et des regards effrayés, j'ai été plongé dans l'anxiété et dans la stupeur à l'heure où mon être découvrit ici ce qui serait désormais les théâtres de son existence. Mais en plus, j'ai expérimenté des choses que ton âme n'a jamais imaginées. Étranges et incontrôlables sont les émotions qui me poussent à parler de cette tristesse profonde que mon apparence toute de brillante dissimulerait si c'était possible. Oui, ma vie sur la terre a été brusquement interrompue Et cela, après avoir quitté le monde, j'ai été entraîné rapidement dans la direction dictée par mes désirs dominants. J'avais profondément désiré être courtisé, être honoré, être admiré et de recevoir l'adulation de tous, de tout être libre de suivre les pendants de mon cœur orgueilleux, on peut dire les penchants de rebelle et aimant uniquement le plaisir. Et mon désir, c'était une existence de plaisir sans retenue, où chacun devait être libre d'obéir aux impulsions de ses passions, où toute indulgence devait être accordée à l'âme. Mais la prière n'y avait absolument aucune place. Le sabbat y était inconnu. Le péché ne devait se heurter à aucun reproche. Une vie se déroulant en festivité, en gaieté, sans aucune contrainte ni interdiction. Et c'est avec de tels désirs que j'entrais dans le monde spirituel, passant à la condition adaptée à mon état intérieur, et je me vis précipité vers la jouissance de ces scènes brillantes que tu as maintenant sous les yeux. J'ai été accueilli comme toi, tu ne l'as pas été, car on m'a reconnu d'emblée comme une associée bien assortie à ceux qui peuplent ces lieux. Ils ne t'ont pas adressé la bienvenue parce qu'ils discernent en toi un désir intérieur qui est opposé aux passions dominantes qui prévalent ici. J'ai été accueilli par de la gaieté et des plaisanteries. Les êtres que tu aperçois au loin se sont précipités pour m'embrasser. Ils criaient de toute leur force « Bienvenue, bienvenue !» Et je fus étourdi, stupéfaite et pourtant regaillardi et encouragé par l'atmosphère de ce lieu. Je me trouvais doué d'une capacité de mouvement étrange et sans repos. Chacun de mes organes et chaque pore de ma peau se mit à émettre un éclairage phosphorescent qui se condensa sur ma tête, formant ainsi l'apparence d'un diadème brillant. Cela produisait sur le visage un éclat sauvage, inconnu sur la terre. Cette exaltation se développait et devint en sorte une robe flamboyante qui développa ma silhouette, me rendant ainsi conforme aux esprits avec qui j'étais associé maintenant. Oui, Marietta, tu es vraiment dans un endroit maudit. Puisses-tu en échapper? Et je te dis simplement que j'exprime ainsi la loi de l'attraction du mal. Et je suis l'esclave d'éléments discordants et trompeurs et de tous leurs vices dominants. Car chaque objet, à son tour, m'attire et la notion de liberté morale s'éteint avec la volonté qui meurt, tandis que l'idée que je deviens partie de cet environnement artificiel prend possession de mon esprit. Ce royaume, derrière son rideau de nuages épais comme la nuit, est comme une mer d'éléments magnétiques, morbides et pervers. Car ici l'orgueil, le désir charnel, la haine, l'avarice, l'amour-propre, l'ambition et les blasphèmes se livrent à la folle ivresse, s'embrase jusqu'à devenir une flamme brûlante. De plus, telle forme particulière de péché, qui n'appartient pas à un esprit et ne découle pas de lui, est le propre d'un autre qui le manifeste en conséquence. La loi qui prévaut ici est celle de la force combinée de tout le mal, et je suis lié, et en elle, j'existe maintenant. Là se trouvent tous ceux qui ont opprimé les pauvres, qui ont privé le mercenaire de son salaire, qui ont accablé l'affligé de pesants fardeaux, ceux qui étaient faux dans leur piété, les hypocrites, les adultères, les assassins et les suicidés, qui, non satisfaits de la vie dans leur corps, en ont accéléré le terme. Si les mortels pouvaient voir dans quelle nuit obscure et terrible ils sont certains de tomber, s'ils meurent sans être préparés, ils choisiraient de prolonger leur jour d'épreuve plutôt que d'en hâter la fin. Quelle que soit la multitude de leurs peines, il faudrait vraiment, on peut dire, sagement mettre à profit tout le temps qui passe et qui tourne rapidement les pages des occasions accordées pour se préparer sur la terre. Un homme accablé voit-il sa vie chargée de souffrances dans sa marche obscure vers la mort, tandis qu'il avance en tâtonnant sur les sentiers semés d'épines qui foulent les mortels? Ici, de tous côtés, surgissent et se multiplient de nouvelles causes qui font l'obscurité. Sur terre, l'espoir de vivre des jours paisibles et heureux vacille-t-il comme une torche qui s'éteint? Dans cette demeure ici, on est sans cesse sous la pression de penchants impurs et pourtant jamais satisfaits. Pire, les sens sont ici infiniment plus aiguisés, ce qui pour les mortels ne produirait qu'un serrement de cœur entre ici, dans l'élément même de notre existence, si bien que la souffrance causée, elle devient partie intégrante de nous-mêmes. En outre, dans l'immortalité dont l'homme prend conscience dès qu'il est dégagé de ses sens physiques, comme la sensibilité à la souffrance est immensément plus grande que dans la vie terrestre. Dans les mêmes proportions, la notion de douleur et son potentiel y sont de loin supérieurs à la peine des malheurs humains. Marietta, je sens bien qu'il est vain d'essayer de décrire l'état désastreux où nous sommes. Et je me demande souvent, n'y a-t-il aucun espoir? Et ma raison répond, comment l'harmonie pourrait-elle exister au sein même du chaos? Lorsque nous étions dans nos corps, nous avons été avertis des conséquences de notre manière de vivre, mais nous avons préféré nos voies à celles qui élèvent l'âme. Nous nous sommes ainsi jetés dans ces lieux terribles. Nous avons nous-mêmes causé notre malheur. Dieu est juste, il est bon, et nous savons que ce n'est pas par une loi vengeresse du Créateur que nous souffrons. Marietta, c'est notre attitude dans la vie qui nous a conduits dans la détresse où nous sommes maintenant. Le fait d'avoir violé la loi morale, qui aurait gardé notre nature dans l'harmonie et dans la santé, c'est cela la cause première de notre situation désespérée de maintenant. Oui, c'est le péché. C'est lui qui est l'auteur des maux innombrables. Ennemi insidieux de la paix et du ciel, pourquoi donc les mortels gérissaient-ils des sentiers ? Là, elle s'arrêta, fixant sur moi des yeux agrandis par le désespoir. J'ai vraiment tremblé devant ce regard effrayant, car son expression témoignait d'une indicible torture. Et pendant qu'elle me parlait, une nuée d'êtres misérables tournait autour d'elle, luttant pour étouffer leurs sentiments, tandis qu'ils l'entendaient décrire la réalité de tous leurs tourments. Leur apparence, ce qu'elle m'avait dit, et la scène qui se déroulait devant moi, me remplirent d'horreur, et je cherchais à m'échapper. Elle s'en aperçut, et son chagrin augmenta, et elle me dit aussitôt, « Non, 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 Marietta, ne me laisse pas. Ne peux-tu supporter pour un court moment la vision et le récit de ce que je souffre sans fin ? Reste avec moi, car je désire te dire encore beaucoup de choses. Tu frémis devant de telles visions. Eh bien, sache que tout ce qui se passe autour de toi n'est que le stade visible d'une désolation encore plus profonde. Marietta, aucun être bon et heureux ne demeure parmi nous. Tout est sombre à l'intérieur. Parfois nous nous hasardons à espérer une rédemption. Nous rappelons l'histoire de l'amour rédempteur de Jésus et nous demandons cet amour. Pourra-t-il pénétrer dans ce monde de ténèbres et de mort ? Nous est-il permis d'espérer d'être délivrés de ce désir, de ces pulsions qui nous lient comme des chaînes, de ces passions qui nous consument au milieu des éléments impurs de ce monde de détresse ? Submergée par tout ce qu'elle ressentait en elle, elle sombra dans la tristesse et je ne l'entendis plus. C'est là alors qu'un autre esprit s'approcha et m'adressa la parole. Par ici, laisse-nous à notre sort. Pars d'ici, car ta présence nous fait souffrir, car elle ravit le souvenir très vivace des occasions que nous avons perdues et de notre indulgence devant les penchants qui nous rendaient l'âme vulnérable face à l'attraction du mal et dominaient l'esprit comme un aimant mortel. Là, l'esprit s'arrêta un instant, puis continua. « Non, non, reste. Poussé par une cause que j'ignore, j'ai besoin de révéler ce que nous avons appris depuis que nous sommes là au sujet du pouvoir et de l'influence du mal, de son magnétisme sur l'esprit humain, magnétisme qui reste excessivement subtil tant que l'homme habite sa tente d'argile. Mais quand l'esprit quitte le monde extérieur et pénètre dans le monde intérieur, le mal forme la sphère visible de son existence. Ici, c'est la chose la plus concrète. Dans le monde d'où nous venons, il est invisible et intérieur. Mais maintenant, il est notre demeure apparente. Il monte des profondeurs, il se déploie hors de l'âme, il enveloppe tout, envahit tout, contrôle et inspire tout. Les mortels s'oppose à cette vérité et il conclut que si Dieu était amour et bonté, il ne pourrait y avoir de souffrance dans l'esprit de l'homme. Ce raisonnement met sur Dieu la responsabilité du mal, puisqu'il existe, ainsi que la souffrance dans la famille humaine sur la terre. Mais parmi nous, ces choses dominent. La cause en est évidente et cependant les hommes cherchent à rejeter ce principe. Oui, pourquoi les vivants ne veulent-ils pas réfléchir afin d'y voir clair sur les conséquences de leurs actes? Je répète, pourquoi les vivants ne veulent-ils pas réfléchir afin d'y voir clair sur les conséquences de leurs actes, en empêchant le mal de se développer et en s'attachant à Dieu par les moyens pourvus par le ciel? Ils échapperaient, oui, ils pourraient échapper à cette effroyable rétribution. Marietta, tu n'es pas des nôtres. Autrement, ces éléments auraient enveloppé ton être et absorbé ta vie. Mais tu vas retourner maintenant au domaine de la paix. La folie et le délire nous empoignent et font rage dans nos cœurs quand nous entendons parler de lieux où l'amour, le pur amour et la paix habitent. Nous t'avons parlé ainsi en vue de ton retour sur la terre. Raconte donc à ses habitants ce que tu as vu. Oui, avertis-les du danger qui attend tous ceux qui persistent à se complaire dans leurs désirs impurs. La scène se termina sur une expression hideuse et toute anéantie, car je savais que ce dont j'avais été témoin était vraiment réel, une réalité, et je fus immédiatement enlevé de là. Et ces esprits, je les avais connus sur terre, et quand je les voyais là, je les reconnaissais. Oh, combien changés! Ils étaient carrément l'incarnation même de la tristesse et du remords. Combien ardemment je désirais qu'ils puissent échapper et devenir purs et recevoir un héritage avec les esprits bénis que j'avais vus dans le paradis de paix. Nous arrêtons, chers amis, ici notre étude, notre récit de Marietta. Et nous la continuerons demain matin, le numéro 26. Ce sera l'abîme, le royaume de ceux qui sont désespérément mauvais. Chers amis, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prier ensemble. Il n'y a pas besoin de grandes prières, simplement quelques mots pour dire au Seigneur que nous l'aimons, que nous désirons de tout notre cœur, de tout notre être, d'éviter l'endroit négatif et terrible que nous venons de comprendre par le récit de Marietta. Prions. Grâce te soit rendue, ô Père des Lumières, pour nous avoir donné en ta sainte parole le vrai guide qui nous peut mener, nous et le monde, vers Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Aide-nous à suivre ton étoile, tes directives, sans crainte des ennemis et des obstacles, et affermis en nos cœurs la joie, et la volonté de consacrer tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, à l'extension de ton règne. Amen. Donc, à demain matin, mes chers amis. Au revoir.